Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour Justine, bienvenue dans le podcast Bien dans ta boîte. Dans ce nouveau format, du coup, dans la tête 2, aujourd'hui, on va parler de toi, on va parler de ta tête, on va parler de tes pensées. Le but étant d'avoir un partage un peu plus intimiste. C'était déjà venu sur le podcast, mais il y a très longtemps. Je pense que c'était en 2019, même.
Ouais. Les premiers épisodes.
Ouais, ça, ouais, c'était vraiment dans les 5 premiers, je crois. Donc, je suis très contente de te retrouver dans le podcast, et puis depuis, c'est passé beaucoup de choses depuis 2019 que tu étais venue, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, et j'imagine ton mindset, ta tête, etc. aussi. Alors s'il y en a, par hasard, qui ne te connaîtraient pas déjà, parce que je pense qu'on a quand même beaucoup de réseaux et d'abonnés en commun, je vais commencer par, évidemment, la première question qui est de te présenter, comme tu le souhaites.
Oui, alors déjà, merci pour ton invitation. Je suis très contente d'être à nouveau de retour dans ton podcast, des années plus tard. Et du coup, qui suis-je? Eh bien, je suis Justine. Je suis mentor podcast et business, ce qui veut dire que j'aide les entrepreneurs et entrepreneuses à mieux vivre dans leur business, à le développer sereinement et à trouver plus de clients sans prospection grâce au podcast. Voilà ce que je fais.
Ok, présentation pitchée efficace. Est-ce que tu pourrais nous dire dans ta présentation un ou deux trucs un peu plus perso ou
oui. Tu vois ? La présentation que je viens de faire n'est pas ce que j'ai fait depuis le début de mon entrepreneuriat quand je me suis lancée en 2018. À cette époque-là, j'étais social media manager pour les artistes et les pros de la musique. Donc, gros pivot entre 2019 et 2020. J'étais plus bien dans ma boîte à ce moment-là et donc du coup j'ai souhaité switcher, chercher ce qui allait me faire à nouveau kiffer, travailler avec des clients que j'allais apprécier à nouveau. J'habitais 1h15 de Lyon, je suis en pleine campagne, ma maison est entourée de vaches et de prés, ce qui fait que je suis très proche de la nature. J'aime être dans mon hamac sous mon boulot, donc pas le boulot, l'arbre boulot. Et c'est vraiment mon moment à moi d'ancrage et de reconnexion à ce que j'aime et à pourquoi je fais tout ce que je fais.
Bah forcément, on échange souvent à ce propos, mais on se reconnaît aussi l'une et l'autre dans ce mode de vie, de campagne, etc. Mmh. Et j'imagine que ça a aussi une influence sur ton business, sur la manière de voir les choses. La première question, peut-être elle va faire un lien de ce hors-série dans la tête 2, Justine Arma, du coup, pour ce matin. C'est, quelle est, selon toi, une croyance que tu as et qui, selon toi, et ou a été un moteur de réussite justement dans tes 5 dernières années maintenant?
Alors en fait, et c'est rigolo parce qu'il y a une personne qui m'a demandé ce week-end quelles avaient été les émotions et sensations que j'avais eues au moment où j'ai décidé de me lancer. Et j'avais oublié tout ça, je me suis dit mais mince, c'est trop ridicule en fait d'oublier cette sensation et ces émotions qui en fait sont le véritable moteur. Mais quand on a la tête dans le guidon, bah, on zappe l'histoire. Et en fait, moi, c'était vraiment, et ça l'est toujours aujourd'hui, de pouvoir construire un quotidien, quelque chose qui, à moi, me fait du bien, mais aussi va faire du bien à d'autres personnes. Et c'est vraiment vers ça que je tends tous les jours, où je me demande si déjà ce que je suis en train de faire, c'est bien pour moi, mais est-ce que ce que je suis en train de faire va pouvoir être bon pour une autre personne.
Ouais, donc t'as quelque chose qui est très drivé par les valeurs. Mmh. Et j'entends des valeurs très tournées. Alors, quand tu dis faire du bien, du coup, est-ce que c'est des valeurs qui sont tournées sur le registre peut-être bien-être, santé? Est-ce que c'est plutôt tourné bien au sens de la morale, par exemple, de quelque chose qui est bien? Comment tu le vois dans ta tête?
On est plutôt sur le bien-être. Alors, santé, c'est plutôt ton dada. Mais moi, c'est vraiment oui, plus tourné vers le bien-être de la personne pour lui donner l'élan, l'inspiration de... En fait, si on a réussi à faire quelque chose qui est bon pour soi, moi en tant que personne, eh bien toi aussi tu peux le faire. Et donc je te montre où est-ce que je me suis plantée. Je t'explique pourquoi ça a fait mal, en tout cas me concernant, et j'essaye de te faire gagner du temps et t'éviter en fait de toi aussi te cogner la tête contre un mur qui peut faire très mal.
Ouais. Donc en gros, toi vraiment ton moteur de réussite, hein, je dis réussite entre guillemets parce que la réussite c'est très subjectif et personnel, mais ton moteur de réussite au quotidien, c'est vraiment on va dire faire des choix et des actions orientées par Est-ce que ça me fait du bien? Oui, non. Est-ce que
Oui.
ça fait du bien aux autres? Oui, non.
Oui, totalement ça.
Ok. Et est-ce que du coup, à l'inverse, tu as de ces 5 dernières années d'entrepreneuriat une croyance que tu as travaillée ou que tu as, pourquoi pas même abandonnée?
Franchement, elle était horrible, cette croyance-là. Et j'ai réussi à m'en débarrasser, mais vraiment récemment, au moment où je suis passée en société, donc en mars 2022, où là, je me suis là, enfin, j'ai compris que j'avais cette croyance comme un boulet. C'était, il faut souffrir pour réussir. Alors, je ne parle pas de temps de travail, je ne parle pas de, faut que tu fasses minimum 35 heures par semaine. Non, c'est vraiment dans la douleur que tu auras, en fait, ce que tu veux. Et ça me semblait, mais totalement impossible de se sentir, c'est fou, de se sentir bien, de pouvoir réussir à avoir quelque chose que j'ai envie sans être en galère, quoi, sans être en souffrance. Et du coup, ça a enclenché une sorte de pression sur mes épaules où ça devait forcément venir de moi. Ma souffrance devait être énormissime pour avoir une réussite énormissime. Et donc, du coup, je me mettais une pression dingue où si ça vient pas de moi, si je suis pas en galère, eh ben, en fait, c'est non, il y aura pas, il y aura pas. Et ça a été hyper compliqué de me débarrasser de ça. Et du coup, il y a la pression, il y a aussi le rapport à l'argent de, eh ben, faut que tu sois en mode survie pour pouvoir générer de l'argent, parce que si t'es pas en mode survie, tu vas pas souffrir. Donc, oh, c'était une tannée, une vraie tannée.
Hey, c'est vachement intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup beaucoup d'auditeurs auditrices qui vont se retrouver là-dedans parce que cette conception de la souffrance, elle est très judéo-chrétienne aussi. Donc c'est quand même le lit de notre société. Donc on a souvent
C'est
cette
ça.
notion de devoir mériter son argent, sa réussite, etc. Comment tu t'es rendu compte que tu l'avais cette croyance et comment tu l'as travaillée du coup?
Alors, je suis en thérapie depuis l'âge de 2 ans. Alors, évidemment, pas avec la même personne, hein. Cette personne-là, la première, a dû partir à la retraite depuis, puisque j'ai 30 ans. 31, pardon. En fait, vraiment, c'est ce passage en société où le changement, le fonctionnement, le mindset, enfin, les nouvelles personnes, le comptable, tout ça, la gestion financière, ça m'a fait genre, wow, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que c'est réellement ma place? Ou là, je suis vraiment en train de souffrir, mais je suis vraiment pas sûre de pouvoir réussir. Là, je galère sa race, je suis pas sûre de réussir. C'est mon thérapeute, en fait. Alors, je me suis fait coacher déjà de base avec une coach business, Anaïs Feltro, qui m'a vraiment accompagnée, rassurée. Regarde, mais si, regarde ce que tu as fait, mais regarde. Enfin, voilà, un peu genre, ouvre les yeux, meuf, tout va bien se passer, tu as de l'air, tu vis dans un endroit que tu aimes, tout va bien se passer. Et mon thérapeute, où en fait, je me suis rendu compte que cette croyance-là était liée tout simplement à l'entrepreneuriat même de mes parents. Et je me suis rendu compte, et je me suis souvenu aussi que, bah, avant, je voulais pas être entrepreneur parce que je voyais mes parents galérer avec leur entreprise. Et finalement, quand je me suis lancée, je me suis dit, bah non, je me lance, mais je vais surtout pas entreprendre comme eux. Et je me suis retrouvée, au moment du passage en société, à faire exactement la même chose, quoi. À être vraiment en galère, à être vraiment dans la survie, à être dans la surpression, à être, tu peux pas gagner de l'argent s'il n'y a pas un peu de enfin, quelque chose de malhonnête ou, parce que mon père était pas la personne la plus honnête liée avec ses entreprises et ses clients. Donc forcément, j'étais là genre, oui, donc pour générer de l'argent, il faut que ça se passe pas bien, il faut que je sois en galère, il faut que je travaille 7-7, il faut que je peux pas avoir de famille. Enfin, il y avait tout ce truc. Et donc, coach et thérapeute, bah, ça m'a vraiment aidée, quoi.
Ouais, c'est clair. Bah surtout quand c'est des croyances comme tu dis comme ça qui sont héritées du système familial. Alors de toute façon, une bonne partie des croyances le sont, mais enfin du schéma de pensée. Mais parce que je trouve que tu l'exprimes bien dans ton ressenti de je voulais vraiment pas faire comme eux et entre guillemets je me suis piégée toute seule parce que au final je me passe en société, je me rends compte que finalement bah c'était quand même là quoi. Et ça montre à quel point ces logiciels-là, il suffit pas de se dire. Ah, il faut changer de croyance ou je vais lire un bouquin là-dessus ou je ne sais quoi parce que on les a super bien appris et parce que sur le familial on a aussi des loyautés invisibles et indirectes qui maintiennent un peu la loyauté en fait tout simplement à ce
C'est
système
ça.
de croyances donc c'est pas si simple de les dégager en tout cas pour une croyance comme ça qui était aussi imprégnée dans ta tête apparemment quoi. Et alors du coup dans ce monde entrepreneurial que enfin dans cette partie du monde entrepreneurial que tu fréquentes depuis 5 ans parce que le monde entrepreneurial c'est large. Quelle serait, selon toi, la croyance qui ferait du bien à ce monde entrepreneurial pour les années qui viennent?
Tu vois, je disais que au départ, ce qui m'a guidée, c'était si ça me fait du bien, c'est OK. Et si je peux aider quelqu'un d'autre, c'est parfait. On construit un business en partant de soi. Jusque-là, ça va. Mais après, on peut se retrouver en mode « Ah non, mais je suis hyper égoïste, je peux pas. » Et tu te mets à tout donner à une autre personne pour effacer, atténuer cette part d'égoïsme. Et en fait, je trouve que c'est hyper important de la garder. Parce que dès lors que tu oublies que c'était pour toi à la base, que tu as construit ce que tu as construit, déjà, tu peux mal aider la personne. Et toi, tu ne t'aides plus du tout. Et donc, je pense que vraiment, il faut partir du principe que ça peut être bénéfique pour deux personnes, que c'est pas de l'égoïsme, et que si on ne se met plus au centre de son business, eh ben, en fait, on est à côté de nos pompes, quoi. Complètement. Parce qu'on ne fonctionne plus selon nous, pour nous, on s'oublie. Après, il y a toutes les notions de sacrifice, il y a les notions de « je dois faire l'effort d'eux ». Et après, t'as « mais si je fais pas l'effort, peut-être que je vais avoir des avis négatifs, peut-être que cette personne-là va pas me recommander ». Tu sais, t'as fait toute une montagne d'un truc. Et je pense que vraiment, en partant de soi et en restant vraiment au centre de ce que l'on construit, c'est là qu'on devient une meilleure personne pour soi-même et pour les autres. Et ce n'est pas de l'égoïsme négatif, c'est quelque chose d'hyper positif.
Et comment tu le fais, du coup, comment tu fais pour revenir toujours à toi et à ton centre, en fait, parce que j'entends un peu cette notion d'axe, finalement. Comment tu fais pour y revenir et pas te perdre?
Je m'écoute. Je m'écoute. En fait, c'est vraiment ça. À chaque fois que je me suis plantée, à chaque fois que j'ai eu une mauvaise collaboration, à chaque fois que ça s'est mal passé, c'est juste parce que mon alarme intérieure, là, qui m'avait dit « attention, Justine, ça pue un peu du cul, là. Non, n'y va pas. » Où j'étais en mode « mais si, il faut que j'y aille, parce que j'ai... qui suis-je pour dire non ?» Il y en a qui galèrent pour avoir des clients. Et pourquoi tout ce truc-là. Et ben en fait, j'y allais et bim, ça faisait mal. Alors oui, ça m'a aidé à avancer. Maintenant, aujourd'hui, j'avance différemment. Où je me dis pas genre, c'est en me plantant que je vais pouvoir voir, c'est plutôt en m'écoutant que ça va être OK pour moi et aussi OK pour la personne, parce que sans doute qu'en y allant, je suis pas la meilleure personne pour accompagner la personne qui veut que j'accompagne. Oula, c'était une Jean-Claude Van Damme, ça.
Du coup, j'entends dans ce que tu dis cette notion qu'on retrouve souvent, qui est un peu cette lutte intérieure des fois qu'on a entre le mental et l'intuition, vous appelez ça comme vous voulez, le mental et le cœur, peu importe, mais en tout cas entre ces deux énergies, ces deux instances qui défendent chacune leur point de vue et qui quelque part ont raison chacune dans leur point de vue, mais où généralement hein, on connaît tout ce truc quoi de pas avoir écouté l'intuition et de se dire quelques semaines après et voilà.
C'est ça, totalement. Mais du coup, en m'écoutant moi maintenant, par exemple, typiquement, prenons l'exemple des appels de vente, des calls découvertes, des premiers rendez-vous, appelle-le comme tu veux. Avant, quand j'avais des rendez-vous comme ça, j'étais en mode, il faut que je vende. Peu importe, il faut que je vende. Et j'ai carrément arrêté d'avoir des calls découvertes parce qu'en fait, c'était trop difficile. J'arrivais pas à dire non, j'arrivais pas à y aller sans stress. Depuis quelques semaines, quelques mois, j'ai remis en place des appels découvertes. Et aujourd'hui, je suis hyper contente quand je dis à la personne, non. C'est pas le moment, c'est pas moi, c'est pas ce qu'il te faut, je te recommande une autre personne. Et en fait, de pouvoir switcher d'état d'esprit et de penser, en fait, hein, de dire je suis pas, j'ai pas besoin de vendre, je peux dire non, je dois m'écouter surtout, et bien en fait, t'es dans une autre dynamique. Et t'es plus en mode vente obligatoire, t'es plutôt en mode non, il faut que ce soit une bonne collaboration, il faut que. Moi, je m'écoute et que je respecte mon cadre, mes limites, ce dont j'ai besoin et aussi que j'écoute ce que la personne a besoin.
Ouais, moi, ça m'évoque aussi quelque part la notion de flexibilité, tu vois, où tu peux très bien aller, par exemple, à ton appel découverte avec une dynamique un peu yang, tu vois, parce que ça peut répondre à un besoin de performance, de dire, OK, je vais vendre parce que là, en ce moment, tu vois, j'ai la niaque, j'ai la pêche, et avoir la flexibilité pendant l'appel de dire, non. Pas pour cet appel-là, parce que là, effectivement, c'est pas le bon moment pour la personne, ou je sais pas, la formation, le coaching, ou je ne sais quoi qu'il lui faut. Et je trouve qu'il y a un peu cette notion dans ce que tu dis, finalement, de cette flexibilité, de s'éloigner un peu de soi quand tu sens que tu peux sortir un peu de la zone de confort, entre guillemets, et la flexibilité de dire non, là, il faut que je m'écoute et il faut que je revienne à mon centre, quoi.
Oui, totalement. Et puis, du coup, tu te défais, en fait, un peu des dictats de l'entrepreneuriat qui dit un call, une vente, quoi.
Ouais.
Où t'es là à compter ton taux de conversion d'appel découverte, bah en fait non, le but du jeu c'est que, enfin Oui, c'est bien de regarder ce taux de conversion. On est OK là-dessus, on fait du business, mais en fait, à quoi bon avoir un super taux de conversion si on est en galère avec les gens? Ça sert à rien du tout, quoi.
Bah justement, tu me fais une transition puisque tu parles de galère avec les gens, donc j'entends l'émotionnel là. Ça serait quoi l'émotion que tu ressens le plus dans ton business et celle que tu ressens le moins dans ton business?
Très facilement, je me remets la pression. Ou, en fait, c'est vraiment un truc où je suis là, genre, mais pourquoi tu te mets ça en pression? C'est OK, tout va bien, là. T'as toujours de l'air, tout va bien et tout. Et en fait, il y a toujours un truc où je me remets un peu en autopilotage de mets-toi en mode survie, mets-toi la pression. Et là, tu vas pouvoir avancer. Et je suis là, genre, mais quel mode survie? Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Et c'est très, très, très rapide chez moi, quoi. Dès que je sens la difficulté ou quoi que ce soit, je vais pouvoir me mettre en mode survie, donc fatigue, donc ultra travail, donc. Et après, je suis là, genre, mais pourquoi je suis nulle là? Qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est hyper ridicule. Donc, c'est pas un combat quotidien, mais je sais que très facilement, je retombe dans ce schéma-là. Donc, ça, c'est un peu l'aspect négatif. Et c'était quoi la suite de ta question?
Eh ben, l'émotion que tu ressens le plus, alors peut-être que c'est celle-ci du coup, et celle que tu ressens le moins.
Celle que je ressens du coup, oui, le moins, c'est une forme de sérénité. Alors, je dis pas sérénité en mode je me mets en lévitation et je suis refaite et ma vie est parfaite. Je dis plutôt une forme de confiance, plénitude, quelque chose où c'est genre c'est ok, c'est fluide, ça va bien se passer, c'est le déroulement normal, tu vois, ce genre de truc, ça je le ressens pas, ou encore très peu. Et je le travaille, hein, vraiment, j'ai mis en place des routines, ou j'essaye, enfin, je décroche de plus en plus de mon travail, j'ai, ne serait-ce encore une fois, que de passer en société, ça m'a fait du bien, parce que c'est plus moi dont il est question, c'est une entreprise, et moi je suis moi-même à côté, et on travaille ensemble main dans la main, et on se sépare en fin de journée, et les week-ends, et les vacances, tout ça. Ça m'a fait énormément de bien. Mais je suis vraiment encore dans le process de c'est pas toi, ça va bien se passer, tu peux être sereine dans ta vie, toi, d'humaine, et bon, bah, quand t'es en business, peut-être que t'as plus de pression, ok, mais c'est deux parts différentes.
J'entends finalement que cette question de sérénité au sens de confiance plénitude est aussi de toute façon le corollaire de ce que tu disais avant, c'est-à-dire de vite retomber dans le schéma de la pression, etc., qui est de vite retomber dans le schéma familial en fait, hein, du coup. Mais et
C'est
donc
ça.
bah du coup nécessairement t'as le corollaire de l'autre côté. Elle n'est pas facile hein, cette question de la distinction de l'entrepreneur et de l'entreprise, parce que moi je l'ai longtemps plaidé entre guillemets en tant qu'accompagnante d'amener ces entrepreneurs à se distinguer et même à se détacher, utiliser le mot de leur entreprise. Je pense que dans une certaine mesure, c'est nécessaire, sain, fonctionnel, ce que tu veux. Et je crois que dans une certaine autre mesure, c'est juste pas possible, en fait. Parce que de toute façon, tu feras jamais une distinction, comme après tous nos collègues salariés, pour la majorité d'entre eux, ne se sentent pas non plus complètement détachés à 1000% de leur boulot, tu vois, même s'il y en a qui sont à 100% détachés aussi, parce que des fois, ils font des métiers qu'ils n'aiment pas, évidemment. Alors, c'est vrai que chez les entrepreneurs, la plupart du temps, t'aimes un peu ton taf. Un petit peu. Alors, des fois, après, des fois, t'as le décrochage comme tu disais tout à l'heure, tu vois, de je me suis éloignée de moi-même, et en fait, là, ça me convient plus du tout. Mais c'est vrai que pour la majorité des entrepreneurs, même si des fois, t'as des moments difficiles, il y a quand même un truc qui t'a motivé à la base et qui peut quand même être un peu là, dans un coin. Même si des fois, c'est dans un tout petit coin, mais ça peut être là quand même, quoi.
Et puis, enfin, encore une fois, au mois de juin dernier, j'ai eu des gros soucis de santé au niveau de mon dos, j'ai eu le coco en même temps, donc je me suis retrouvée, et en plus, j'avais une semaine de vacances. Donc, en fait, au mois de juin, il y a eu vacances, coco, dos bloqué. Et là, j'étais là, genre, bah, ça y est, ma boîte, ça va se crasher, je suis plus capable de. Et en fait, non, ma boîte a maintenu, j'ai des ventes qui ont été générées, alors que j'étais en vacances, dos bloqué, donc j'étais genre vraiment en train de larver au soleil, parce que c'était tout ce que je pouvais faire, d'être genre allongée sur le sable chaud. Et en fait, ça continuait de tourner et ça m'a fait du bien. J'avais sans doute besoin de ça pour me rendre compte que, un, ma boîte pouvait fonctionner sans moi, entre guillemets, dans, on va dire, le mouvement intense, tu vois. Et puis surtout, je m'étais rendu compte que ça me définissait plus. Il y avait moi. Et il y a ma boîte et on est ensemble. C'est pour ça que je dis, on est vraiment ensemble, main dans la main. On avance dans la direction que j'ai choisi d'aller. C'est moi qui pilote. C'est moi le chef dans l'histoire, tu vois. Mais elle ne me définit plus. Alors que quand j'étais en micro-entreprise, c'était mon nom. C'était moi, tu vois. C'était genre, tout est sur moi, tout est sur mes épaules. Si j'arrête, ça s'arrête parce que bah, c'est une partie de moi. Et aujourd'hui, c'est certes là où je passe le plus clair de mon temps. Par contre, j'adore m'en éloigner parce que je reviens dans l'entreprise avec encore plus de passion, de patates, d'idées, d'envie. Et avant, enfin, je l'avais vraiment perdu, ça.
Ouais, le désir naît du manque, hein, comme on dit en psycho. Peut-être que au-delà de la question du statut, il y a peut-être la question de la raison sociale, en fait. Tu vois, parce que j'entends effectivement ce truc que ça portait ton nom, ton prénom, ton nom.
C'est ça.
Et c'est vrai que c'est quelque chose en termes de quand il y a des gros personal branding comme ça. Alors ça a plein d'avantages marketing et tout. C'est pas une critique du personal branding, mais moi qui n'ai pas vécu ce personal branding à ce point, puisque mes entreprises elles ont jamais porté mon nom. La raison sociale n'était pas mon nom.
Oui.
Et du coup, c'est vrai que je me dis ça doit faire un truc où t'as aussi toujours une question de représentation aussi finalement.
Totalement.
Est-ce qu'il y a quelque chose, hein, une croyance, un mindset, une valeur, peu importe, auquel tu crois et qui, selon toi, ferait beaucoup de bien au monde en général, hein, si on s'en occupait davantage?
C'est la suite logique pour moi de ce que je disais tout à l'heure où on crée son business pour soi et du coup aussi pour les autres par extension. En fait, il faut vraiment partir du principe que on a le pouvoir, la possibilité de changer quelque chose. Alors, je suis pas en train de dire, mettons-nous tous en mode Superman, changeons le monde, sombre la planète, tout ça. Mais en fait, si, on peut. En fait, on peut construire quelque chose qui va apporter énormément de positif à son échelle. Je sais pas, les animaux, la nature, les humains, la planète. Il y a plein de choses, en fait. La culture, enfin, on peut vraiment apporter des choses positives. Et on n'est pas juste là pour faire de la moula, de l'argent, de la monnaie. On est là aussi parce que l'on peut apporter sa pierre à l'édifice comme on a envie de l'apporter. Et du coup, on peut réellement changer le monde à sa façon. Et je trouve que c'est hyper puissant quand on se rend compte de ça, de... Moi, je sais pas, je suis hyper drivée par les valeurs de l'écologie, par l'éco-responsabilité, par le zéro déchet, par la permaculture, par comment est-ce que je peux vivre avec le minimum d'impact négatif et au contraire, comment est-ce que je peux vivre en ayant le maximum d'impact positif autour de moi et pour moi. Et ben en fait, mon entreprise peut m'aider déjà à le faire pour moi, mais je peux aussi aider les autres à le faire pour eux, à tous les niveaux. Et je pense que c'est vraiment ça, en fait, qu'il faut un peu se mettre dans la tête de tout est possible et on peut impacter positivement tout en vivant de son entreprise, en toute honnêteté et avoir une responsabilité envers soi-même, les autres et la planète.
Oui, tu disais que mon entreprise peut également contribuer à ça. Question philosophico-politique, hein, tu me connais. Est-ce que tu crois que l'entrepreneuriat de demain, il est nécessairement un entrepreneuriat engagé?
Nécessairement, je sais pas. Par contre, je dirais que ça pourrait être bien que ce le soit plus. Encore une fois, à tous les niveaux. Et un engagement à tous les niveaux aussi. Hein. Typiquement, moi, le mois prochain, je participe au Podcaston, où en fait, je vais dédier un épisode de podcast sur une association. Alors, je suis encore en train de chercher l'association que j'ai vraiment envie de porter. Mais j'hésite entre l'écoféminisme, entre... les rébellions dites passives, tu vois. J'ai oublié le nom, comment ça s'appelle, mais voilà. Ou alors simplement la nature, les animaux, voyez, plein de choses. Et je pense que on peut, via notre business, pouvoir faire porter sa voix. Avec un podcast, c'est possible aussi. Son message, et du coup, aller dans la direction de... Donc, je pense que ce serait bien qu'il y en ait un peu plus.
Quelles sont les pensées qui occupe ta tête en ce moment, Justine?
Alors, là, ça fait 2 mois que j'ai qu'une envie, c'est de genre fermer la boîte pendant une semaine et de ranger et de trier et de remettre tout à plat. C'est vraiment... Alors, je le fais chez moi régulièrement. Tu vois, je vends tout le temps des vêtements, je vends des livres, je vends des trucs, machin. Je suis une fana du tri. Ça me fait un bien fou, ça me nettoie le cerveau. Et j'ai besoin de le faire pour ma boîte. Et donc, dans 15 jours... C'est genre vraiment mon cadeau de Noël. Je me suis offert ça à Noël et je ne pouvais pas le prendre avant 15 jours là. Et en fait, je dédie une journée, genre création de contenu, gestion financière, gestion des équipes, management, tout ça, tout ça. Et j'ai trop hâte. Et ça, c'est vraiment C'est là pour le coup, c'est vraiment ma carotte, tu vois. Ma carotte, allez, 15 jours, dans 15 jours, tu vas être trop bien. C'est mon cadeau de Noël. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'obsède en ce moment, c'est d'ouvrir mon cadeau. Ensuite, sur cette année-là, ce qui occupe mes pensées, c'est de... Tu vois, je fais un petit rétropédalage dans la tournure que commençait à prendre mon entreprise, qui en fait ne me convient pas du tout. Quand je suis passée en société, j'avais déjà des personnes avec lesquelles je travaillais dans l'entreprise, donc alternante et aussi freelance. Et en fait, je me suis rendu compte que ça nourrissait la pression que je me mettais sur mes épaules. Parce que, grosso modo, j'ai des bouches à nourrir, quoi. Et évidemment, ma bouche à nourrir passe après tout le monde. Sinon, c'est pas drôle. Et en fait, vraiment, fin d'année dernière, je sentais qu'il y avait un truc genre, je sais pas là, je vais quelque part, je suis pas sûre de kiffer. Si j'y vais, je réponds à tout ce que je vois sur LinkedIn, Insta, on y va. Mais en fait, je réponds pas moi à mes besoins. Je réponds pas à ce que moi je veux réellement et à ma vision, en fait. Et du coup, encore une fois, je m'oublie et je prends plus soin de moi. Et donc, du coup, je peux prendre soin des autres, tout ça. Et donc, ma pensée sur cette année-là, et c'est pour ça aussi que j'ai très hâte de tout mettre à plat, c'est comment est-ce que je peux non pas limiter ma croissance, mais en tout cas avoir une croissance raisonnée parce que je sais ce dont j'ai besoin en termes d'équipe, en termes de finances, en termes de rythme de vie. Je sais ce dont j'ai besoin aujourd'hui, donc je dois ajuster ça et réduire un peu la voilure parce que ça commence à être trop gros. Et je veux pas du trop gros, tu vois. Moi, je veux pouvoir, tu vois, des fois, j'étais là genre, oh là là, mais il faut que je sois dans le Slack de l'équipe parce que forcément, si je réponds pas aujourd'hui, non, j'ai plus envie de ça, en fait. Je veux juste pouvoir vivre mon business, savoir que un tel fait des trucs, qu'on se pointe à ce rendez-vous-là, mais pas me mettre la pression de faut que je sois présente et que je nourris ce truc. Et donc, c'est vraiment ça, ma pensée. C'est réduire la voilure sans limiter la croissance et plus en respectant ce dont, enfin, ce dont ce que j'ai besoin, moi, en tant qu'humaine et en tant qu'entrepreneur.
Ouais, cette réflexion, je pense qu'elle va parler à beaucoup d'entrepreneurs, entrepreneuses qui nous écoutent. Elle me parle aussi. Je pense qu'on est beaucoup à naviguer entre. Alors c'est aussi normal en tant qu'humain de naviguer entre des besoins qui peuvent être aussi contradictoires, hein, entre des besoins de performance qui du coup laissent la place à des besoins de repos, etc. Mais au-delà de là de la question des besoins à l'échelle individuelle, eh ben j'entends aussi les injonctions. En fait, du monde entrepreneurial, des réseaux sociaux, des confrères et consoeurs entrepreneurs, etc. Et ça, c'est pas évident, surtout quand tu es dans ta situation. Ça me fait penser dans entre guillemets le cran en dessus à Julien Mussy de comment s'appelait sa boîte, leader de ton marché. Et je l'écoutais il y a pas très longtemps chez Louise Aubéry où il disait que bah du coup il avait scalé sa boîte avec le succès qu'on lui connaît. Et en fait, il disait mais en fait à un moment je me suis retrouvé avec une entreprise qui fait des millions, une équipe de dingue. Pas besoin de travailler 10 heures par semaine. Donc le Saint Graal tel qu'il est présenté dans beaucoup de milieux entrepreneuriaux, il disait, mais moi en fait, je me suis retrouvé là comme un couillon à dire, mais moi en fait, ce que je voulais à la base, c'était coacher et former. Au final, je ne fais rien de ça parce que le temps où je suis à la boîte, c'est du management, c'est du taf de CEO. Et même
C'est
si
ça.
le taf de CEO, il est super intéressant, c'était peut-être pas celui que lui voulait faire la majorité du temps. Et du coup, ça me fait. Et donc, il a fait le choix de rétro-pédaler, j'aime pas cette expression parce que ça a l'air de dire qu'on revient au stade d'avant alors
Ouais, compte diminue, machin, mais
que...
en fait
Ouais,
pas du
voilà.
tout.
Mais en tout cas, pour lui, il y avait une nécessité de diminution du coup du chiffre d'affaires, de l'équipe, etc. Mais bon, diminution pas au sens péjoratif de la chose. Et du coup, ça me fait penser finalement à ce que tu dis, quoi, où tu as eu ce truc, où tu vois en fait ta boîte qui est sur une ligne de croissance et où toi, tu dois faire le choix de dire, wow, je sais que c'est tout ce qu'on me dit qu'il faut avoir et faire. Mais moi, je me rends compte que c'est désaligné avec moi. Comment t'arrives à le faire, ce choix, en fait? Comment t'arrives à te détacher de toutes ces injonctions, de toutes ces pressions? Et j'imagine, malgré tout, d'une petite voix dans ta tête qui doit te dire, hein, quand même, nanana, t'as réussi à faire ci, à faire ça, machin.
C'est ça. Et ben en fait, ça a été plutôt plusieurs red flags. Le premier de si je vais là-dedans, je vais souffrir. Par contre, oui, peut-être que je vais réussir, mais moi, je vais être au bout de ma roulette. Donc, non, je ne veux pas. Ce qui découle sur, faut s'écouter. Et comme c'est ce que je transmets aux entrepreneurs, entrepreneuses que j'accompagne, de mets-toi au centre, écoute-toi, choisis ton fonctionnement, nanana, si moi-même, je ne le fais pas pour moi, franchement, je suis une grosse blague. Donc de là, de base, j'étais là, genre, là, je suis en train de me désaligner. Comment est-ce que je peux accompagner des personnes dans l'alignement, justement, dans la création, développement d'une entreprise qui fait sens pour eux, les autres, etc. Si moi-même, j'ai plus ma place dans ce que je suis en train de construire. Grosse blague. Donc déjà, j'étais un peu genre, bah non, j'ai pas envie d'être une arnaque. On va se détendre. Mais ça a été super dur. Enfin, franchement, ça a été vraiment une décision sur le temps long où... Dès décembre, je sentais qu'il y avait un truc qui n'était pas cool. J'ai fait le bilan de ma boîte, les vacances de Noël sont passées. Je sentais que, tu vois, j'étais un peu tiraillée. Il y avait un truc qui n'allait pas, mais je n'arrivais pas encore à mettre le mot dessus. Et j'ai repris le bilan qu'on avait fait avec mon équipe fin décembre, je l'ai fait début janvier. Et là, ça a été genre l'éclair, quoi. Genre, bah, en fait, c'est juste pas là où est-ce que j'ai envie d'aller du tout. Et ça a été compliqué parce que tu te dis, effectivement, tu es en train de diminuer quelque chose. Et encore, tu es qui pour dire non? À ce qu'il est possible d'avoir, alors que plein de gens aimeraient que tu continues dans cette voie-là. Qui es-tu pour dire non et refuser quelque chose presque qu'on t'apporte sur un plateau? Bon, en fait, c'est moi, je suis Justine, et je décide juste de choisir que, bah non, le plateau qui est devant moi ne m'intéresse pas, le menu est sympa, mais non, en fait, je préfère mon menu végétarien, je préfère mon menu simple, je préfère mon menu responsable, et je préfère mon menu qui, bah, en fait, va me faire kiffer, quoi.
Ouais.
Et donc, du coup, je réajuste le tir.
Ça me fait penser à un moment de mon parcours que tu connais où après m'être tant bagarré pour avoir cette place dans ce master de clinique où les places étaient chères et où finalement une fois que j'ai ma place je la refuse et du coup j'avais plein de gens qui me disaient ça et puis moi-même hein, une voix dans ma tête qui disait quand même est-ce que t'es pas en train de faire un caprice quoi tu vois et en fait je l'avais switché et c'est un peu ce que j'entends de ton discours en disant non ce que j'ai créé jusqu'ici n'implique pas nécessairement que j'accepte la place en master ou que je fonce dans cette croissance-là. Tout ce que j'ai construit jusqu'ici, en tout cas moi je l'avais pensé comme ça, c'était pour avoir le choix. Pour avoir le choix peut-être in fine de dire non finalement je ne veux plus, finalement je veux pas toute cette équipe, je veux pas ceci, je veux pas cela. Et je crois que fondamentalement quand t'es entrepreneur c'est ça aussi que tu fais. Tu vois déjà tu passes ton temps à prendre des décisions parfois difficiles. La moindre chose, c'est au moins que tu puisses te dire j'ai le choix de construire la vie que je veux, le business que je veux. Mais c'est difficile avec des injonctions, des fois, c'est sûr.
Totalement.
Bah, du coup, ça fera une bonne transition pour ma dernière question. Est-ce que tu pourrais nous donner tes 3 habitudes pour être bien dans ta tête et donc de ce fait bien dans ta boîte?
Mais quelle belle question. Alors, encore une fois, je bataille pour garder ces moments de... Toi-même, tu le dis. Tout ce qui nous fait du bien, c'est les premières choses que l'on tège dès qu'on commence à aller mal. Et ben là, je me suis vraiment accrochée à mon planning où j'ai dédié du temps pour pouvoir rester accrochée à ce qui me fait du bien. Et c'est très simple, en fait. Je lis. Je lis en début de journée, je lis en fin de journée. Alors, en début de journée, parce que, en fait, j'adore lire, je suis une littéraire et je me sentais tellement con des fois en disant, mais t'as lu 2 livres dans l'année, super, bah, bravo. Alors qu'avant, c'était 2 livres par semaine, tu vois. Et en fait, j'étais là, genre, mais non, j'ai besoin d'ouvrir mon cerveau, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de me cultiver, d'améliorer mon vocabulaire, travailler mon orthographe, ce genre de choses, tu vois. Et en fait, j'ai réinstauré, mais petit à petit, en mode objectif, je veux lire, au départ, c'était genre 6 livres à l'année. Ce qui n'est pas énorme, en fait. Et en fait, je ne les faisais même plus. Donc, j'étais là, bon, bah non, ça va faire un livre tous les 2 mois, c'est cool, machin. L'année dernière, c'était 12. J'en ai lu plus, j'en ai lu 14. Et là, on est en février, j'en ai déjà lu 2. Alors, je me suis laissé l'objectif de 12, tu vois, un livre par mois. Comme ça, c'est safe, pas de pression, tout ça. C'est ce truc de pression que je remets facilement sur moi. Voilà, safe cette fois. Donc, je lis entre 15 et 30 minutes le matin et pareil en fin de journée. Ce qui me permet de commencer en me faisant du bien et de terminer vraiment, je clôture ma journée, je ferme en fait, je ferme la porte. C'est comme si en fait, c'est comme si je prenais ma voiture et que je rentrais chez moi, sauf que j'ai pas de temps de trajet. Donc je mets ce temps de trajet là pour moi, qui est bah voilà 15-30 minutes de lecture. Je ne m'oblige plus non plus à lire que des livres business parce que le business, oui, ça fait partie de ma vie, mais c'est pas ma vie. Donc j'ai plein de livres différents. Ça passe par des essais, ça passe par des modes d'emploi de permaculture aussi, enfin plein de trucs et ça me fait du bien. Donc la lecture. Ensuite, pour m'aider en tout cas à résoudre mes problèmes de dos, en tout cas à me soigner, eh ben j'ai des routines de d'étirement tout simplement puisque je ne peux pas encore revenir au yoga. J'ai quand même mes routines d'étirement. Donc le happy baby, il est toujours au programme, la grenouille, elle est toujours au programme. littéralement j'ai aussi. Ça, c'est les jokes de yogueuse, tu vois. Donc, j'ai mes étirements en début et fin de journée. Donc, tu vois, ça fait déjà aller 30 minutes, 45 minutes pour moi. Et ensuite, ce que j'adore faire, et c'est peut-être pas hyper bien pour moi non plus, mais je m'en fous, ça me fait du bien. Et ben, en fait, c'est mon café clope le matin, dehors, solo, où je me réveille tôt, en fait, pour avoir tout ce temps-là, toute seule. Parce qu'après, toute la journée, je parlais à plein de gens, des gens que j'accompagne, des gens avec qui je travaille, en interaction avec tout le monde. Et du coup, le matin, je me réveille 1h30, 2 heures avant que ma journée commence. Alors, pas du tout en mode miracle morning, hein, mais vraiment en mode, j'ai besoin de ce temps-là pour être solo et faire ce que j'ai envie de faire et regarder le jour se lever et boire mon café dehors et me les cailler. Mais ça me fait du bien. Et donc, du coup, c'est ce que je fais le matin. Et en fin de journée, pareil, j'ai mon moment dehors. Quand il fait beau, bah, je vais direction le hamac ou alors direction la piscine. Mais en tout cas, j'ai vraiment ces pauses de début de journée et de fin de journée qui m'aident à démarrer et couper.
Ouais, ça me fait penser à quelque chose, ce que tu disais là sur la question de j'ai besoin d'avoir ce temps seul parce qu'après je suis tout le temps en interaction, etc. Sur cette question de la solitude des entrepreneurs et entrepreneuses, qui est un sujet très présent et très coûteux, et où je trouve que il y a un truc qui est tellement paradoxal pour des entrepreneurs et entrepreneuses comme nous qui travaillons à la maison, où t'es à la fois jamais seul, parce que comme tu dis, t'es toujours en train, alors surtout pour ceux comme nous qui sont dans le service et qui du coup, bah, on est en interaction avec nos élèves, clients, patients, etc.
C'est
Les
ça.
co comme là, on fait là, les podcasts, les collègues, machin, les messages vocaux, les 45 000 notifications, les réseaux sociaux, les lives et tout. Et où paradoxalement, en fait, t'es tout le temps seul, quoi. En fait, quoi qu'il en soit, tu seras toujours seul à décider, parce que c'est ta boîte. Puis finalement, ça reste, pour, en tout cas pour des entrepreneurs comme nous, du virtuel. Donc c'est super d'avoir des interactions, etc. Mais voilà. Et je trouve que tu as cette espèce de paradoxe de n'être jamais seul, mais de toujours être très seul dedans, quoi. Tu vois, tu
Complètement,
ressens comment,
oui.
toi, ce truc-là?
Je suis entièrement d'accord avec toi. Et tu vois, donc Marvin, mon compagnon, qui travaille aussi à la maison, en fait, toute la journée, on se voit. C'est presque. Alors, la journée, c'est comme un collègue de travail, on boit le café ensemble. Tu vois, genre, c'est la machine à café, on est dehors ensemble, on boit le café ensemble. Lui souffre de cette solitude-là parce qu'il n'est pas autant d'interaction que nous. Lui, il est en créa, il fait de la musique, donc il compose, il va chanter, il va faire les trucs, donc il est seul pour pouvoir faire ça. Et lui, il a besoin d'aller vers l'extérieur. Mais moi, mais me demande pas de sortir après le travail, de machin, je peux plus, en fait. J'ai besoin de. C'est bon, c'est comme si je posais le cerveau, les cordes vocales, il n'y a plus personne. Vraiment, il y a 2 neurones qui se branchent juste pour savoir qu'est-ce qu'on va manger ce soir, tu vois, c'est tout. Et pareil, le week-end, avant, j'avais tendance à prévoir plein de choses. On va aller à tel endroit, on va faire tel truc. Et arrivé le week-end, j'étais là genre, non, mais en fait, moi, je veux juste être chez moi, là. Je veux jouer aux Sims, je veux aller planter mes patates, je veux solo, quoi, qu'on me demande pas comment je vais, ce que je fais, comment ça va dans ma vie. Non, c'est bon, c'est fini, game over, quoi, je veux plus. Et là où c'est difficile, c'est que effectivement, on se sent seul. On peut se sentir seul la journée parce que je suis seule dans mon bureau, tu vois. Et en même temps, je pense que par jour, toi et moi, on doit parler à au moins 20, 30 personnes différentes, ce qui est absolument énorme. Mais toi, des fois, je suis là, genre, mais en fait, je suis caissière à Mammouth, quoi. Je vois tout autant de monde passer à ma caisse. Voilà. Alors, bon, ils ne payent pas tous, hein. Il y a des gens normaux avec qui je discute juste, hein. Mais tu vois, ça fait vraiment cette sensation de je suis un bar, là, je suis un truc, il y a des gens qui passent, bonjour, je dois être aimable, tout ça, truc bidule chouette. Bah, c'est dur. C'est hyper dur. Et donc, du coup, cette solitude, on en a besoin. Mais de se retrouver seule pour mieux repartir avec les autres. Et en même temps, je ne peux pas envisager mon quotidien sans discuter avec mes business potes, quoi, tu vois. Genre, les notes vocales, les messages, comment ça va, je suis sur ce truc, c'est difficile, t'en penses quoi, nanana, tous ces trucs-là, bah, on en a besoin. Donc, on va aussi chercher les interactions externes pour ne plus se sentir seule. C'est vraiment quelque chose d'assez ambivalent quand même, hein.
Ouais, puis je trouve que c'est une question d'équilibre, mais d'équilibre au sens du contrebalancement, tu vois. Moi, la semaine dernière, j'ai dû être un peu moins dans ma boîte pour les raisons que tu connais. Donc du coup, bah hier, on boit un coup, tu sais, en terrasse avec des copains. Bah et les questions, enfin, il y en a un qui a commencé à me poser des questions sur mon business, mais tu sais, j'avais envie de lui répondre, tu vois. Alors que quand je fais des grosses semaines et que t'arrives le samedi soir, t'es en soirée avec les copains, ils font alors Laura, le boulot, je fais, ah non, c'est bon, vas-y, c'est bon. C'est bon, on parle pas de mon taf, tu vois. Et en même temps, c'est cool parce que les gens, ils sont intéressés. Mais tais-toi, depuis lundi matin, t'y es. Et surtout quand t'es entrepreneur, t'as ce truc où ta boîte, t'y penses matin, midi, soir, nuit, week-end. Même quand tu prends du temps pour toi, même tout ce que tu veux, t'es en train d'écouter un podcast et d'un coup, t'es un an et dit, oh, putain, mais c'est une bonne idée, ça, il faut
Mais
que je
oui,
note. Enfin,
mais
t'es,
oui.
t'as tout le temps des trucs qui bougent. Et du coup, t'es, c'est le samedi soir, c'est ma seule soirée où on sort un peu, boire un coup, danser, machin. Et là, t'en as un qui dit, alors, Laura, ça a été le boulot cette semaine?
Non, mais le pire, c'est quand. Alors, le pire, non. Alors, à la fois, je trouve ça valorisant, c'est agréable. Mais en fait, quand t'es pas dans le mood et que t'as pas envie, t'es là, genre, non, mais au pire des cas, prends un call découverte. C'est les personnes qui te disent, bon, alors, du coup, j'ai une idée de business. Et toi, évidemment, t'as tes neurones qui sont là, genre, non, mais j'ai une idée. Mais... Et là, t'es là juste avec ton verre. Tu as juste envie de passer une soirée sympa, tu vois. Et t'as pas envie de souffrir à ce moment-là. Et en fait, la personne te parle de son idée révolutionnaire qui peut-être est révolutionnaire. Et t'es là, genre, OK, alors est-ce que je m'active le neurone qui est en train de s'agiter dans ma tête en disant j'ai les réponses à tes questions, vas-y, viens, viens. Ou est-ce que t'es là genre ouais, non, ça pourrait être cool. On en reparle. Et là, t'as envie de sortir ton calendrier, genre prends un col découverte, s'il te plaît.
Ouais, je crois que c'est la problématique de beaucoup de métiers. Tu vois, moi, je l'ai souvent avec ma casquette de thérapeute, tu sais, où en
Bah
soirée,
oui.
on va dire, ah ben tiens, Laura, alors puisque t'es là, alors tu sais pas, alors avec mon mec, machin, oui, bon. Mais et comme mon père était dans l'automobile, alors lui à tous les barbecues le dimanche, je me dis, hé, hey, Domi, au fait, la Laguna, quand même un truc bizarre. Je crois que ça, c'est un peu tous les métiers, tu vois. Mais c'est vrai que des fois, t'es dans cette énergie où il peut être samedi 1h du matin, tu dis, ah ouais, t'as une idée business, vas-y, présente-la moi, je suis trop chaud. Et puis t'as des moments où t'es genre ouais vas-y
Ouais.
prends un appel découverte,
C'est ça,
je suis en RTT là.
complètement.
Bon bah écoute, merci beaucoup Justine d'avoir répondu à mes questions et qu'on ait vu un peu plus ce qu'il y avait dans ta tête, du coup, dans la tête de Justine Arma. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour conclure cet épisode ou est-ce que tu as pu dire tout ce que tu voulais dire?
On a beaucoup parlé de choix tout au long de cet épisode et moi j'ai un mantra qui est affiché sur le mur de mon bureau, qui est choisir, ce n'est pas renoncer. Parce que souvent on se dit, ah mais si je fais un choix maintenant, ça y est, c'est dead, l'autre c'est fini, je peux plus y aller, terminé. En fait, non, c'est juste qu'à ce moment précis, on doit faire un choix qui est peut-être bon ou mauvais, on n'en sait rien, on doit le faire. On y va, on le fait. Et ben à un moment donné, on peut quand même regarder cette porte de droite qu'on a décidé de laisser fermer en se disant, ah ok, donc là j'avais choisi la porte de gauche. Est-ce que finalement celle de droite, c'est pas un nouveau choix que je dois faire? Bref. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que choisir, c'est notre quotidien. Par contre, renoncer, pas forcément. C'est simplement prendre une décision, dire je vais sur ce plan A et j'y vais à fond. Et ce plan B, je le garde dans un coin de ma tête. Peut-être que c'est une super mauvaise idée, mais je ne le sais pas aujourd'hui. Donc, voilà. Et au moment où on va pouvoir se repencher sur ce plan B en se disant, OK, est-ce que je fais réellement le choix aujourd'hui de ce plan B? Est-ce que c'est toujours une bonne idée, une bonne décision à faire? Peu importe. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que on ne ferme pas les portes qu'on a devant nous, on fait un choix et on ne renonce à rien. Et ça, c'est moi, ça a changé ma life, quoi, vraiment.
Donc la conclusion de cet épisode, à mon grand désarroi, c'est que Justine n'est pas très sartrienne dans l'âme, en fait. Hein. Finalement, le choisir, c'est renoncer de Sartre,
Non, non,
pas.
non, 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 moi je l'ai pimpé, tu vois, je l'ai pimpé.
Et voilà. Et ben voilà, c'est donc un épisode qui termine une amitié. Parce que si tu n'aimes pas Sartre, ça peut pas marcher. Voilà, ça marche
Non,
pas.
mais alors toi, toujours dans l'abus, quoi. Genre, si je ne dis pas oui à ta proposition, tu me fais la tronche pendant 15 ans. Aujourd'hui, on n'est plus amis parce que je dis choisir, ce n'est pas renoncer. Oh, ça vient du Sud,
Alors non, déjà pas du tout. Je vois pas à quoi tu
hein.
pourrais entendre dans ma voix que tu vois. Non, juste pour nos auditeurs auditrices, la petite anecdote, c'est que le 25 avril, je pense que cet épisode sera sorti avant quand même. Je fais une soirée bien dans ta boîte à Lyon et donc je cherchais deux pitcheuses dont Sonia Laurembourg que beaucoup d'entre vous connaissent et Justine donc qui fera partie des pitcheuses de cet événement. Et donc je lui avais fait un petit vocal sur WhatsApp parmi les 25 000 vocaux qu'on envoie et qu'on reçoit par jour. Et donc je lui fais un vocal voilà en lui expliquant le truc et en lui disant c'est ton bon droit légal et psychique de refuser mais sache que si tu refuses sans aucune pression je te ferai la gueule pendant 15 ans. Voilà.
Voilà,
Donc je
c'est
ne
tout.
lui aurais pas du tout fait la gueule pendant 15 ans, c'est une exagération sudiste, c'est pour la petite
C'est
blague,
toi, voilà.
voilà, de Laura. Donc non, je ne lui aurais pas fait la gueule, mais fallait pas dire non. Elle a pas dit non. Donc non, c'est bon, ce n'est pas la fin de notre amitié parce que tu as critiqué
Parfait.
Sartre, même si je pleure de l'intérieur, en revanche.
Oh, pardon.
Et donc on va même en profiter pour aller se faire une petite pause café juste après ce podcast. Donc promis, l'amitié n'est pas morte. Mais
Parfait.
je te convaincrai que Sartre était le grand dieu de ce siècle.
Mais laisse-moi dans mon espoir, laisse-moi dans mon espoir de tout est possible. Je ne renonce à rien, je croque comme ça tout ce que je veux, tout ce que je peux en temps voulu, tu vois.
Mais je ne crois pas, parenthèse avant de clôturer, que, en tout cas c'est mon avis, mais moi je suis très d'accord avec Sartre sur beaucoup de choses, et donc avec ce choisir c'est renoncer, moi je crois que choisir c'est renoncer, mais je ne crois pas que renoncer soit une fatalité, je ne crois pas que renoncer, mais bon ça c'est l'influence un peu bouddhiste et yogi je pense, mais parce que je trouve que dans le vocabulaire occidental et dans l'ensemble des conceptions de pensée autour de ces mots, du détachement, du renoncement, il y a un côté qui est hyper péjoratif. Tu vois, plein de fois en interview, on m'a
Mais
demandé
oui.
sur ce détachement de ma boîte, et moi je dis toujours, mais je suis détachée de ma boîte. Quand je dis je suis détachée, mon cercle privé le sait. Ça veut pas dire que j'y pense pas et que j'en ai rien à foutre, loin de là. Mais détachée au sens où je sais que ça finira par mourir, c'est la vie, tu vois. Mais du coup, je pense que dans ce choisir, c'est renoncer, c'est qu'en fait, je ne viens pas coller au renoncement une notion, tu vois, comme tu disais, un peu mélodramatique, genre, bah, du coup,
Mais
tout
oui.
est fini, parce que rien n'est immuable de toute façon, clairement. Mais effectivement, à l'instant T, bah, quand je choisis A, je renonce à B, effectivement. Merci beaucoup, Justine, d'avoir répondu à mes questions. Nous allons continuer ce débat autour d'un café. Et si vous n'avez plus de nouvelles ni de l'une ni de l'autre, c'est que nous nous sommes donc entretués lors de ce
C'est ça.
débat philosophique.
On aura renoncé à notre amitié.
Voilà.
Voilà.
Bon, chanson, on va arrêter de se porter la poisse. Merci beaucoup, Justine, d'avoir répondu à mes questions,
Merci
à
à
nos
toi.
auditeurs, auditrices, de nous avoir écoutés. Et à très bientôt à tout le monde. Ciao, ciao.
Bye bye.